RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est parti pour les grandes gueules. Merci de rester fidèles, même l'été au GG. 9h midi sur RMC, RMC Story, 3h de débat et de liberté d'expression. Alors, on a changé de plateau cette semaine. On est sur un plateau gigantesque. Alors, les plus anciens se souviendront que pendant des années, on a été sur ce plateau 1, c'est le plateau 1 d'RMC et de BFM, parce que c'était le plateau où on accueillait du public. Et après, le public est parti avec le Covid, il n'est jamais revenu. Et puis, un jour, on a changé de plateau. Donc là, on se retrouve parce que il y a des travaux sur notre plateau habituel, dans un grand plateau qui impressionne beaucoup Bruno Poncet, le cheminot. Salut Bruno.
Bonjour à toutes et à tous. Bah oui, c'est... surtout je t'entends pas. Je t'entends très loin, j'ai l'impression que j'étais à 200 mètres de moi. Mais
bon, j'entends l'écho.
J'entends l'écho.
Dans les GG également, Laura Barton Martinez, notre sophrologue. Bonjour Laura.
Hola todos.
Et puis Charles Consigny, l'avocat. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Très impressionné aussi par cette grande table.
Très, très, mais bon, cette ma salle à manger fait à peu près. 4 fois la taille de ce studio, donc je.
Oui, ça reste. Pour toi, c'est une studette ici.
C'est l'antichambre des toilettes.
D'accord. Bon, un mot quand même sur cette Coupe du Monde qui vient de se terminer. 4 semaines et demie de ballon. Alors peut-être que déjà certains sont tristes et regrettent que le spectacle soit terminé. On va faire un petit bilan à la mode GG. On va revenir bien sûr sur la prestation des Bleus, sur quand même les Argentins hier. Quelle bande de voyous. C'est quand même incroyable. Sur les adieux de Didier Deschamps et sur ce que vous avez entendu sur RMC pendant 4 semaines et demie.
L'Espagne est championne du monde! Pour la deuxième fois de son histoire, les Espagnols sont venus au bout des Argentins. La victoire 1-0 pour l'Espagne de Luis de la Fuente. Et ça se chauffe sur le terrain désormais. Mais les Espagnols, ils le savent. Oh, ça part en coup même, en coup délibéré là de la part des Argentins. C'est même une bagarre qui éclate avec Eric Garcia et avec d'autres. En tout cas, l'Espagne finit championne du monde et ça finit en bagarre générale.
Voilà, c'était Jean-Louis Tour hier qui nous faisait vivre cette finale Espagne-Argentine remportée par les Espagnols après un match
sportif,
on va dire. On n'était pas loin quand même de la guerre de tranchées, mais j'ai les Argentins, ils sont formidables, c'est que même quand le match est terminé, continue. Laura, ça t'a choqué cette attitude là des Argentins?
Ouais, mais les attitudes sud-américaines. En fait, c'est pas quelque chose qu'on avait forcément l'habitude de voir. On sait que c'est un foot un peu plus dans le contact, comme peut l'être aussi le football espagnol, à la différence du football anglais et du football français. Mais là, il y a quand même des attitudes qui sont pour moi pas tolérables et anti-sport. Ouais. Après, l'Espagne a gagné. Je m'appelle Martinez.
Donc t'étais pour l'Espagne hier.
Bleu en premier, et ensuite je passe.
Donc t'as gagné hier.
Un petit peu.
Bruno Poncet, t'as vu le match? T'as vu la finale? Ouais,
évidemment, j'ai regardé. Bah après, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un peu gêné. Moi, mon ex-compagne est espagnole. Je vais en Argentine dans 15 jours. Je ne sais pas trop où je mettais les pieds, en fait. Mais là, maintenant, je sais.
Ne mets pas un maillot espagnol.
Non, mais j'ai cherché un maillot.
Je ne conseille
pas. Hier, j'étais à Intersport. J'ai cherché un maillot de l'Argentine en double XL. J'étais assis sur le chopin. Comme ça, j'arrive sur le tarmac. Personne ne va m'emmerder. Je serais bien vu tout de suite. Moi, j'aurais fait mettre Maradona dans le dos. Parce que pour moi, il n'y a que lui qui existe. Mais non, mais c'était un match comme c'était prévu, en fait. Après, moi, je veux bien qu'on dise les Espagnols, ils sont champions du monde. C'est des poètes. C'est joli. Enfin, moi, j'ai vu 3-4 coups sur Messi sans ballon. J'ai trouvé ça joli aussi. En fait, les Espagnols, ils ont joué un peu à l'Argentine. Faut pas rêver. Hein. Bah, c'est pas une équipe de poètes. Hein.
Non, mais c'est ce que j'ai dit. Le foot espagnol, il est aussi.
Je suis pas sûr
aussi,
que quelqu'un qui n'avait jamais vu un match de foot, tu regardes hier, ça donne pas une très belle image de ce sport-là, parce que c'est quand même.
N'a pas voulu jouer,
c'est beaucoup de fautes, beaucoup de mesquinerie, de provocation.
France-Paraguay, c'était quand même le summum de la.
Alors, Charles. Est-ce que toi, tu as vu la finale?
Non.
Non. Tu n'as vu qu'un seul match, c'était France-Espagne.
Absolument. Ouais. Je vous avoue que j'ignorais que cette finale se tenait.
D'accord.
Je m'en suis rendu compte en allant dîner dans un restaurant.
Où tu étais seul?
Pour un anniversaire où il y avait toute une partie des gens qui effectivement regardaient ce match. J'ai observé qu'au bout de 2 heures de jeu, on était toujours 0-0. Donc ça m'a pas passionné, si tu veux. J'ai eu du mal. Et puis moi, je suis patriote à titre exclusif. Donc je ne peux pas me mettre en soutien d'une équipe ou d'une autre, même si, par égard pour le président Milei, j'aurais été davantage heureux d'une victoire des Argentins.
Il n'était pas derrière le stade.
J'avais le souvenir que cette équipe s'était très mal comportée il y a quelques temps. Elle avait été vraiment...
Elle n'a pas changé, elle est fidèle
donc,
à elle-même.
Donc finalement qu'elle perde, voilà. Mais je suis content de voir que c'est le président Trump qui a remis la coupe.
T'as vu quand même
C'est quand même un grand homme.
Oui, bon, il voulait être dans toutes les images.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'à même un moment donné, le président de la FIFA était obligé de lui dire il faut t'écarter parce que là c'est la photo des joueurs qui vont célébrer leur victoire. Et Trump, il voulait vraiment être là partout.
C'est même gênant. La photo qu'on a là dans le studio, nos auditeurs ne la voient pas, mais c'est l'équipe de l'Espagne avec le capitaine de l'équipe, j'imagine, qui tient la Coupe du Monde dans les mains.
C'est le principe du brassard.
Et Donald Trump se tient au premier rang avec sa crinière blonde et sa tête bien connue. On dirait un tableau. Ce sont les tableaux de notre époque, si tu veux. C'est le Jacques-Louis David de notre époque.
Wow.
Et donc, ça me fait du bien de voir Trump.
Ah oui.
Moi, ça me donne de l'énergie.
Il s'est fait siffler, hein.
Je crois que t'es le seul. Hein.
Quand il est rentré sur la pelouse avec le président de la FIFA, ils se sont copieusement sifflés les deux, hein. Parce que c'est vrai que la FIFA, il faut plus être distingué, notamment avec ce carton rouge annulé.
Non. Il y a de la corruption dans la FIFA.
Non.
Tu peux pas dire ça. Ce qui est important dans les grandes gueules, c'est que on est un peu les rois du pronostic.
Ah oui, ça.
Et avant le France-Espagne, on avait demandé à nos GG et notamment à Bruno Poncet quel score. Et voilà ce qu'il avait dit.
Moi, je pense que ça va se finir à 3-0 ou 3-1. Donc
c'est mon pronostic, 3-0.
Non. Mais mes collègues sont foutus de ma gueule depuis un mois, parce que chaque fois que j'ai fait un pronostic, je crois que j'ai tapé à côté. Et pourtant, j'avais raison sur plein de trucs, parce qu'en fait, par exemple, tu vois, moi j'avais dit que la Suisse pouvait sortir l'Argentine, bon, un partout à la fin attendue fin réglementaire. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. J'avais mis les équipes africaines gagnantes à gagner au bout d'un quart d'heure de la fin. Voilà, sur l'Espagne, je me suis un peu planté, mais à ma décharge, je dirais que j'ai fait ça dans l'unique but de valoriser l'Espagne, mais. Non, mais le sujet, en fait, tu vois, si on est tous un peu pareil, quand tu suis le foot depuis des années, tu pensais réellement que Deschamps allait rebasculer à trois milieux et qu'en fait, on allait être plus celui du milieu de terrain. On s'est fait marcher dessus par l'Espagne, au milieu de terrain, c'était l'enfer, en fait. Alors,
c'est bien parce qu'on a perdu contre les champions du monde.
Ouais, enfin, bon, c'est pas des grands champions du monde, tu vois. Moi, j'aurais préféré perdre contre une équipe qui joue au ballon tout le temps. L'Espagne, en quart de finale, ça avait pas été beau. Et puis hier, excuse-moi, mais joue au ballon, tu retires Dani Olmo et puis Yamal de cette équipe, et encore Yamal, il joue sur une jambe. C'est pas glorieux non plus, hein. Moi, j'ai vu beaucoup de fautes, ça m'a fait bien rêver. Je me suis dit, enfin, du football à l'ancienne, tu sais, avec des coups par derrière, des coups de coude.
Alors, le parcours des Bleus, le parcours de l'équipe de France, faut quand même préciser que Kylian Mbappé est devenu hier le premier joueur dans l'histoire du football à être meilleur buteur du mondial sur deux éditions différentes. Ça s'était jamais fait. Et deux éditions de suite. Donc on a quand même un joueur exceptionnel qui une fois de plus pète tous les scores.
C'est le problème.
Ça nous console?
On a que des joueurs exceptionnels. Ce qui manque, je trouve, c'est on a le collectif dans l'état d'esprit. On l'a. En revanche, sur le terrain, non, il se voit pas assez. C'est comme ça que l'Espagne nous a eu. Maintenant, voilà, c'est ce qui est reproché à Didier Deschamps depuis des années. Je trouve les gens un peu durs à voir avec le futur sélectionneur de l'équipe de France.
Eh bien justement, on va en parler dans un instant parce que bien sûr Zidane a priori va être nommé, ça sera la semaine prochaine, on nous dit début de la semaine prochaine. Ouais. Mais moi j'ai entendu Didier Deschamps dire qu'il pourrait peut-être partir entraîner un autre pays.
Ah, on parle de l'Italie en fait.
Non mais attends, moi ça vous choquerait pas que Deschamps, qui pendant 14 ans a été l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France, qui parlait beaucoup de
mais pas de fierté nationale comme
de fierté, ah bon, de fierté à défendre l'équipe de France, à être le porte-parole de l'équipe nationale, il irait il irait sélectionner une équipe étrangère.
Il a une dent.
À mon avis, ça va choquer.
Il a une dent contre les médias, contre les supporters. C'est ce qu'il en a parlé. RMC, apparemment, on n'était pas les derniers à se faire un peu tacler. Comme quoi, on avait été trop méchants et qu'ils supportaient plus le climat dans lequel ils évoluaient.
D'accord, mais Gary, il travaille pour RMC.
Charles, ça te choquerait pas quand même.
Il veut gagner du pognon.
Oui, mais ça choquerait pas.
Je suis pas sûr, moi.
Après avoir pendant 14 ans été le sélectionneur de l'équipe de France, il part en Italie ou ailleurs.
Voilà, ça s'appelle la haute trahison. Et donc, je propose deux mesures. La déchéance de nationalité, premièrement.
Une OQTF.
Je veux que M. Deschamps se voit déchu de sa nationalité française. Et ensuite, au cachot. Au cachot pour longtemps. Hein? L'homme au masque de fer.
Putain, le pauvre.
Voilà. Et terminé, fin de chantier. Non, mais si on était un pays tenu, il ne pourrait pas faire ça.
Julien, en tout cas, il n'y a pas de règle. Hein, il peut le faire.
Oui. Ancelotti entraîne bien le Brésil.
Julien est avec nous. Oui, mais enfin, il n'entraînait pas l'équipe nationale.
Pourquoi il n'y a pas été ? Parce que l'équipe italienne, elle est à la rue pour l'instant. C'est pour ça qu'il est
Julien est avec nous. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules, Julien.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir, les grandes gueules.
Vous vous appelez de Audenas, dans le Rhône. Alors, cette Coupe du Monde que nous avons vécue sur RMC Radio Officielle, comment vous l'avez vécue ?
Bon, je l'ai vécu. Ça a été un petit peu une nouvelle Coupe du Monde, nouvelle édition avec des petits pays qui nous ont fait ont mis un petit vent de fraîcheur dans cette édition. En ce qui concerne le niveau de jeu de cette Coupe du Monde, moi je trouve que ça a vraiment baissé par rapport à d'autres années. On a eu des éditions avec des petits scores niveau du jeu, pas mal de choses. Enfin, c'était du déchet technique comme on n'a pas vu dans d'autres éditions. Et puis pour revenir sur l'équipe de France, j'étais floué comme pas mal de supporters. On y a cru au début, enfin on s'est enflammé, on est tombé dans le panneau. Mais derrière en fait, ce qu'il y a eu c'est que bon, on est tombé contre une équipe espagnole avec une maîtrise du milieu de terrain sur laquelle nous on n'a plus rien.
Vous avez été frustré du parcours qui s'arrêtait finalement en demi-finale, surtout la manière dont on a perdu ce match.
Ouais, c'est la manière. En fait, Deschamps depuis des années nous a habitués à jouer avec un système défensif. On attend tout le monde, on bloque, on part en contre-attaque. Dernière Coupe du Monde, Dédé il a dit on se lâche, on va mettre des attaquants, peu importe ce qui arrive, on va jouer tout sur l'attaque. Et quand on a une équipe avec une telle maîtrise que l'Espagne, derrière, on est obligé de prendre le bouillon. Donc, moi, ça me frustre un peu sur 14 ans de mandat, on a eu un seul trophée. Moi, je comparais un petit peu ça aux 10 ans de notre cher président. On a un vivier de talent énorme. Et derrière, le peu de résultats qu'on a, je trouve ça hyper frustrant.
C'est comme 14 ans, c'est deux septennats, c'est trop long.
Non, voilà. On aurait peut-être dû faire deux quinquennats à ce moment-là, je pense aussi également.
Et si jamais Deschamps entraîne une autre, enfin sélectionne plutôt, devient sélectionneur d'une autre équipe nationale, ça vous choquerait ?
Ouais. Quand on entend son attachement, ses dernières déclarations, l'amour qu'il a pour notre équipe nationale et tutti quanti, en disant tutti quanti, je crois qu'il va justement rebondir, à mon avis, en Italie.
Ben, ça serait curieux quand même de voir au prochain Euro. Didier Deschamps avec l'Italie face à nous peut-être. Enfin,
l'image ça va remonter d'ailleurs notre cher dernier de Riolo, ça je pense.
Antoine Deschamps.
Deschamps parle de trahison. Bah alors pour l'instant ce ne sont que des rumeurs.
Il a peut-être parti entraîner.
Merci Julien.
Merci à vous les GG. Bel été.
Merci, bel été à vous. Jean-Baptiste également est avec nous 32-16 du côté de l'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour l'équipe.
Bienvenue
bonjour
dans les grandes gueules. Vous avez regardé la finale hier ?
Ah oui, j'ai regardé la finale. C'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé le match splendide. Mais bon, après, je connais pas grand-chose. Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment adoré le match. Après, j'ai trouvé les Argentins pas très fair-play parce que ils ont fait pas mal de fautes.
Oui.
Par contre, j'étais à fond avec l'équipe d'Espagne parce que
pourquoi
on a une femme espagnole.
Ah, vous êtes mariée
aussi, Martinez aussi. Hein.
Oui.
Donc,
c'est pas
donc,
facile.
Voilà.
C'est pas facile. Et donc en fait, ça a été une belle soirée alors.
Ah oui, j'étais. C'est un des rares matchs que j'ai regardé parce que je suis pas un grand footeux, mais en fin de compte, j'ai vraiment apprécié le match de foot et pour moi, ils ont fait un beau match et j'ai trouvé même que il aurait pu avoir plusieurs buts d'inscrits. Malheureusement, ils ont été un peu à chaque fois. toqué par le par l'arbitre. Je trouve que voilà, il y avait des fois des au niveau de l'arbitrage, c'était pas forcément ça.
Merci Jean-Baptiste. Bah, il est heureux parce qu'en plus marié avec une Espagnole, il a vécu une belle soirée hier.
Ah bah surtout que comment ils sont chauvins les Espagnols, le pauvre il a entendu parler et tout. C'est
dis donc.
Oh bah attends.
Non.
Exactement. Et quand il y a eu France-Espagne, alors comment vous avez fait?
Quand il y avait France-Espagne, j'étais plus pour l'équipe espagnole que l'équipe française.
Moi non.
Charles va vous dire au cachot et Didier Deschamps.
Il veut la paix, il a raison, il veut la paix chez lui.
Jean-Baptiste Antoine.
Non, c'est même pas d'avoir la paix chez moi, c'est que je trouvais que l'équipe espagnole jouait mieux que l'équipe française.
Ouais, c'est vrai.
D'accord. Merci Jean-Baptiste. Passez une bonne journée.
Bonne journée à vous.
Salut. Ouais. Et puis le mot de la fin.
Avec des patriotes comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein.
Le mot de la fin à Cyril. Il est dans les Vosges, où passe le Tour de France aujourd'hui.
Ah, oui.
Cyril, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Du côté d'Épinal. Alors, on se pose la question, effectivement. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Mais Didier Deschamps pourrait peut-être sélectionner une autre équipe nationale. Pourquoi pas l'Italie? Est-ce que ça vous choquerait ou pas?
Absolument pas. Autant la personne de Didier Deschamps m'a pas super passionné pendant ces 14 dernières années, autant il faudrait peut-être remettre les choses dans le contexte. On prend déjà rien que pour cette Coupe du Monde, Thomas Tuchel, il me semble pas que ça soit le plus britannique des entraîneurs et des sélectionneurs.
Ça, c'est clair.
Et pourtant, il était à la tête de l'équipe d'Angleterre. Et puis surtout,
il n'est pas passé de l'Allemagne, il n'est pas passé sélectionnaire de l'Allemagne à sélectionneur de la Grande-Bretagne.
À ce moment-là, on prend les joueurs qui ont plusieurs nationalités et qui tâtent un peu au doigt, hein, cette sélection, ouais, non, je vais me faire recaler, je vais même pas être sur le banc de touche, j'y vais pas. Ah, bah, tiens, celle-là, j'ai plus de chance, donc j'y vais.
Bah,
on a un Français qui était dans l'équipe espagnole, hein.
On a le fils
Zidane qui joue pour l'Algérie parce qu'il sait qu'il a absolument aucune chance d'être sélectionné en équipe de France. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on s'interroge à droite et à gauche, mais au bout d'un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Si les joueurs le font, je vois pas pourquoi le sélectionneur le ferait pas.
D'accord, ça ne vous choquerait pas.
Absolument pas. Okay. Non, pas du tout.
Merci Cyril. Merci d'avoir appelé au 32-16. Voilà, la Coupe du Monde est terminée, mais on aura l'occasion de la débriefer toute la journée sur RMC, bien entendu. Dans un instant, on va s'interroger sur ce qui se passe pour Barbara Butch. Vous savez, cette DJ qui s'était fait connaître lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Hier, enfin, c'était samedi, plus précisément, elle donnait un concert au Festival Carbaret Frappé à Grenoble. Elle a été interrompue au bout d'une vingtaine de minutes par une centaine de militants pro-palestiniens. On lui reproche ses engagements et notamment le fait d'avoir signé une tribune de soutien à la loi Yadan. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi est-elle censurée? Comment dans ce pays peut-on perturber des concerts uniquement pour un délit d'opinion en quelque sorte? Le 32-16 pour intervenir. Vous étiez peut-être au concert, appelez-nous sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui l'avocat Charles Consigny, le cheminot Bruno Poncet, la sophrologue Laura Barton-Martinez. Et puis on gagne et on joue et on gagne cette semaine dans les Grandes Gueules, puisque nous vous offrons un séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants au parc Astérix. Oui, l'occasion de profiter des 50 attractions et spectacles pour toute la famille pendant l'été gaulois. Alors pour remporter votre séjour au parc Astérix, vous envoyez le mot parc au 7-32-16, parc au 7-32-16. La gagnante ou le gagnant sera en direct tout à l'heure à 11h20. Il y a un gagnant chaque jour. Donc allez, tentez votre chance. Maintenant, parlons de cette artiste censurée pour ses idées. Que que vous entendez là, ce sont les manifestants qui sont venus perturber et annuler le concert de Barbara Butch, la DJ. Vous vous souvenez, elle s'était fait connaître du grand public après sa participation en 2024 à la parodie de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'ailleurs, à l'époque, ça avait provoqué déjà une polémique. Là, elle tenait un concert samedi à Grenoble, au festival Cabaret Frappé, et ça a été interrompu au bout d'une vingtaine de minutes par une centaine de militants pro-palestiniens et aussi des militants LFI, puisque cet appel au boycott avait été soutenu par la section grenobloise de la France Insoumise et par l'élu Alain Brunon.
De notre côté, il n'y a eu aucune violence, simplement des militants pacifistes. J'étais en première ligne de ces militants qui ont simplement brandi des drapeaux palestiniens et crié leur colère de voir que dans ce pays, il y a toujours une criminalisation permanente des militants pro-palestiniens, alors même que le génocide se poursuit à Gaza. Le ministre de l'Intérieur a beau dire ce qu'il veut, c'est un menteur absolu quand il nous traite d'antisémites, mais nous avons l'habitude avec lui, qui est un censeur de premier plan lorsqu'il a voulu notamment interdire la fête de la musique de la France Insoumise.
Et antisémitisme,
et que personne n'a trouvé rien d'autre à redire. Mais ça c'est faux, personne n'est antisémite de la France Insoumise.
Alors, personne n'est antisémite. En tout cas, c'est des gens qui censurent. Alors, ils disent que c'est pacifiste. Bon, enfin bon, la Barbara Butch, la DJ en question, a été obligée d'annuler son concert. Et Laurent Nunez, effectivement, le ministre de l'Intérieur, est intervenu. Il a tweeté son mécontentement en estimant qu'on n'avait pas, bien sûr, à empêcher une artiste de se produire sur scène pour ses idées. Que reproche-t-on à Barbara Butch? Ben, on lui reproche sans doute d'être juive, en tout cas, d'avoir signé une tribune de soutien à la loi Yadan, cette loi qui avait été aussi débattue et qui tend à condamner des propos qui mettent en cause le gouvernement israélien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'on a cette censure, est-ce qu'il faut soutenir Barbara Butch? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que, oui, au contraire, vous comprenez les militants qui sont venus perturber son concert? Laura Vartan-Martinez.
Alors, moi, déjà, c'est pas une artiste. J'ai été très blessée. C'est même pas heurtée ou choquée. Moi, j'ai été blessée du comportement, enfin, de sa représentation scénique pendant les JO. Ça m'a fait de la peine. Donc, c'est pas une artiste que je défends bec et ongle. En revanche, ce qui s'est passé hier, c'est honteux. J'étais pas spécialement d'accord avec la loi Yadan parce que effectivement, oui, il faut condamner beaucoup plus les actes antisémites. Il faut qu'il n'y ait aucune possibilité que ça se passe encore. J'avais juste une petite peur avec la critique d'Israël. On peut critiquer, depuis quand on ne peut plus critiquer juste un gouvernement? Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé hier, c'est une honte absolue. Mais maintenant, j'ai envie de dire, entre ça, plus la petite dont on parlera tout à l'heure, la petite sortie de Monsieur Coquerel, est-ce qu'on est encore étonné de ce que peut organiser LFI, de ce que peut engendrer le comportement d'LFI? Moi, les gens comme ça qui brandissent un drapeau palestinien, je pense qu'ils devraient aussi se remettre un peu en question et vérifier à ce qu'ils font.
Charles?
Non, d'abord, allez voir Madame Butch en concert à Grenoble. Déjà, c'est grave. Déjà, je suis désolé, il faut... Non, mais... On peut pas faire ça. Je veux dire, il y a tellement...
T'as pas mangé des Chocapic ce matin?
Non, mais attends, mais tu peux pas aller au concert de Barbara Butch. Ça me paraît... Ouais,
c'est la liberté, après les goûts, les couleurs.
Non, non, non.
Bon, d'accord.
Moi, je suis pour la censure a priori de Barbara Butch.
Ah, t'es pour la censure, oula.
Non, mais tu peux pas... C'est pas possible, je veux dire.
Mais même la censure parce que t'es pas d'accord avec ses idées?
Alors ça, c'est un autre sujet.
Bah oui, mais c'est le sujet quand même. C'est pas non. Le sujet, c'est pas de savoir si on aime ou pas ce qu'elle fait. Le sujet est de savoir est-ce que on doit aller perturber son concert et jusqu'à l'annulation parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense.
Bien sûr.
Ou est-ce qu'elle représente?
Non, bien sûr que non, et certainement pas parce qu'elle aurait soutenu je ne sais quel. De toute façon, le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la position que les gens prennent, ça leur revient toujours dans la gueule d'une manière ou d'une autre par une famille ou une autre. Donc je suis pas surpris en même temps, mais je vais vous dire, la loi Yadan, moi j'ai déjà débattu avec Caroline Yadan, et honnêtement, c'est quand même pas la parlementaire la plus aiguisée de l'Assemblée, pour dire les choses poliment. C'est quand même quelqu'un, si vous voulez, qui est d'une mauvaise foi hallucinante, qui fait preuve de beaucoup d'autoritarisme intellectuel. C'est vraiment le bloc central dans toute sa splendeur et dans toute son erreur. C'est vraiment quelqu'un qui vous donne envie d'alternance. Donc moi, j'aurais pas été soutenir la loi Yadan. En revanche, si je l'avais fait, effectivement, je pense pas qu'on aurait pu tolérer qu'on interrompe mon concert. Donc je condamne l'interruption de ce concert, mais je pense qu'il fallait pas aller à ce concert ni soutenir la loi Yadon.
Bruno pensait.
Moi, je trouve que c'est devenu une tradition française d'empêcher les artistes de s'exprimer, et peu importe leurs idées. Et je trouve ça catastrophique parce que on est le pays des droits de l'homme, on est le pays de la liberté d'expression. On peut pas se revendiquer Charlie il y a 11 ans. Et puis aujourd'hui, dès que quelqu'un dit pas la même chose que toi, en fait, faut que t'ailles le censurer. Moi, je suis pas d'accord avec les prises de position de Barbara Butch, ok. Mais c'est une artiste, elle aura de faire son truc. Si les mecs sont pas d'accord avec ce qu'elle fait, ils ont qu'à diffuser des tracts à l'entrée du concert, et c'était réglé. Et c'était évité après de faire cet happening qui, derrière, peut contrarier aussi bien les gens de gauche que les gens de droite, en se disant, mais à un moment donné, enfin, laissons la liberté d'expression. Et puis, c'est comme une tradition sur plein de trucs. Et moi, je trouve que Nunez, effectivement, c'est un menteur. Parce que Nunez, il empêche certains artistes qui ont des prises de position à l'envers de Barbara Butch. Par exemple, je vais te dire, à un moment donné, Medine n'avait plus le droit de se... Medine, aujourd'hui, il a encore été interdit de concert cet été. Je crois qu'il y a des municipalités qui n'ont pas voulu pour soi-disant trouble à l'ordre public. Moi, je suis désolé, mais Medine, aujourd'hui, je vois pas en quoi c'est un trouble à l'ordre public plus que quelqu'un d'autre comme ou que Barbara Butch. T'as Gainsbourg, il y a quelques années, avec la Marseillaise qui avait empêché de chanter par des parachutistes. Et puis on peut parler aussi de Dieudonné, si on veut, à un moment donné. Dieudonné, s'il est antisémite, s'il n'est pas antisémite, il est condamné, et dans ce cas-là, il n'a pas le droit de parler. Mais si il veut faire de la...
Il a été condamné.
Il a été condamné,
fois.
Ok. Mais là, aujourd'hui, il fait des spectacles, on l'interdit de faire. Donc, il fait des spectacles dans des cabines téléphoniques ou dans un bus. Enfin, à un moment donné, tu vois, c'est, moi, je trouve que si t'es pour la liberté d'expression, et c'est le cas normalement de tout français, parce que c'est aussi ça, fait partie aussi de notre ADN, je vois pas pourquoi t'y empêcher quelqu'un de faire son métier. Après, si t'es pas d'accord avec ce qu'il a dit, bah, écoute, tu fais des tracts.
Mais
voilà.
Il est quand même assez gratiné, là, l'élu local de la France Insoumise, Alain Brunon. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé dans les grandes gueules, il avait été au cœur d'une polémique parce qu'entre les deux tours des municipales, il avait interpellé un individu dans un commerce en le provoquant, en disant viens devant, de quoi t'as peur, et puis il avait traité ensuite de sale tapette. Donc après, il s'était excusé pour cette insulte homophobe. Il faudrait pas que l'homophobie d'ailleurs soit aussi peut-être derrière ce qui s'est passé pour Barbara Butch, qui n'a jamais caché son engagement pour la cause LGBT, qui est lesbienne.
Ils ont quand même tendance à défendre des régimes qui sont pas hyper sympathiques avec la communauté LGBT, hein, LFI.
C'est le paradoxe d'ailleurs.
Bah, c'est toujours.
Enfin, le RN, c'est pareil aussi. Hein. Mais d'ailleurs, on a vu il y a pas si longtemps que ça.
Le RN n'a rien à voir
avec le positionnement de Marine Le Pen avec Orban.
Oui, mais là.
Ah, mais à un moment donné, mais en fait.
Orban n'est plus au pouvoir.
Mais je suis pas pro RN.
Oui, mais
ils
sont.
Non, mais le RN n'a rien à voir.
À un moment donné, moi j'entends, mais de dire que mettre tout le temps LFI dans du côté de l'Iran, de la Russie, moi j'entends.
C'est ce que je fais.
Bah, en fait, les régimes que tu parles, c'est lesquels alors? L'Espagne, la Yougoslavie, le Portugal.
Bah pardon, mais ils sont quand même tout le temps en train de se plaindre des morts et des personnes qui sont dans des régimes qui sont plus qu'autoritaires, religieux, et religieux de surcroît, pas hyper tendres, avec les avec les femmes et les personnes LGBT.
Yannick est avec nous, 32-16. Bonjour Yannick.
C'est pas l'Espagne. Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Valence, dans la Drôme. Vous êtes conseiller en gestion patrimoine. Que pensez-vous de ce qui s'est passé à Grenoble?
C'est juste une honte. Et j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois qu'on a une prise de position qui est contraire à celle de la LFI, on se retrouve dans un climat terreur parce qu'il y a des sanctions. J'étais moi-même victime de ça. J'ai un groupe de rock dans la Drôme et nous avons joué pour l'armée. Et on a eu droit à une vindique, entre guillemets, plus ou moins populaire de certains membres de la LFI et sur un petit journal local en disant qu'il fallait nous boycotter et nous signaler avec toutes nos dates de spectacle. Uniquement parce que nous avons joué dans un meeting aérien.
Ah bon?
Qui était un meeting de l'armée, oui.
Ah ouais, et donc votre nom est apparu et ensuite vous avez des appels au boycott.
Mon nom est apparu, j'ai eu des appels au boycott et aussi des coups de fil assez malveillants en disant que nous étions des fachos, que nous étions entre guillemets des collaborateurs.
Ah, quand on chante pour l'armée, on est facho donc.
Ah oui.
Oui, de toute façon, à partir du moment pour la LFI où on a un avis contraire à leur position, c'est qu'on est forcément pro-RN ou bien on est des fachos. Voilà.
Mais ça va être intéressant de savoir comment Jean-Luc Mélenchon va réagir, parce que lui qui aspire à devenir président de la République, il devra être garant des libertés, et notamment des libertés de se produire, des libertés artistiques, parce que s'il ne condamne pas ça, sincèrement, c'est inquiétant pour la suite.
Il y a quand même pas mal de
pour la suite, parce qu'il faut, en France, on est quand même très attaché justement à cette liberté de création, cette liberté artistique. Il ne faudrait pas qu'elle soit menacée, qu'il n'y ait pas les artistes estampillés officiels qui ont le droit de s'exprimer, puis les autres qui doivent se taire comme Madame.
Vous voulez faire avec les médias, je te rappelle, hein.
Ouais, mais c'est
les bons
c'est...
médias, les méchants médias, hein.
C'est quand même
ils
curieux.
Le font tous, hein. Enfin, en fait, j'ai un peu la peur qu'on a tous, en fait. Que, enfin, tu peux penser ce que tu veux, mais aujourd'hui, n'importe quel parti politique, ouais, à un moment donné, on est dans une espèce de clivant. On n'écoute pas ce que veut dire l'autre.
On a peur.
Et, oui, enfin, moi, j'ai pas tellement peur, mais c'est un autre sujet.
La Macronie n'a jamais appelé à aller manifester dans des concerts pour interrompre tel ou tel artiste.
Non, par contre, la Macronie étant au pouvoir, elle a interdit certains artistes de se produire avec leur ministre de l'Intérieur. Ça, on est d'accord. Et moi, je peux t'en citer plein quand même, en fait. Ouais. Et donc, à un moment donné, je veux bien, hein. Mais je pense que quand t'es au pouvoir, à un moment donné, t'inculques un peu la culture que tu veux. D'ailleurs, toi, tu peux pas, à longueur de journée, nous dire, ouais, France Inter, Gaucho, Radio du Pouvoir.
Je dis jamais ça.
Non, mais
ça,
quand je dis toi, c'est tes amis, des amis des médias, en fait, des médias de droite. Des médias de droite, tu vois, mais en fait, moi, j'entends bien, mais on peut pas dire tous, au contraire. Moi, je me rappelle quand même d'avoir connu une époque, Mitterrand et Chirac, qui mettaient un peu leur, ceux qui voulaient la tête des médias.
Oui, mais justement,
publics.
On n'a pas envie, on n'a pas besoin d'un retour en arrière, là, tu mélanges. Sens,
non mais Macron, il a fait ça depuis qu'il est là. Depuis 10 ans, il a mis que des gens à lui à la tête des trucs. Et puis, en fait, c'est pareil pour les médias.
Mais quel rapport
oui,
avec Barbara
Bush. Je sais pas pourquoi. Yannick, merci Yannick, ça part dans tous les sens. Julien est avec nous. Bonjour Julien.
À la SNCF, ça va être quelque chose.
Bonjour
mec, je suis plus là-dedans.
Julien, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Que pensez-vous de ce concert perturbé et finalement annulé par des militants pro-palestiniens et des militants LFI?
Ben en fait, c'est la marque d'une radicalité de tous les esprits en France. Mais aujourd'hui, c'est dans ce sens-là. Depuis des années, on accepte en France le boycott de certains artistes. Et c'est pas étonnant que cette fois-ci, ça se passe dans un sens où c'est LFI qui va perturber la représentation artistique d'une artiste dit pro-Israël. D'autres artistes par le passé, j'ai entendu parler de Dieudonné, mais Blanche Gardin, Kéron, se font constamment boycotter.
Blanche Gardin, il n'y a pas eu des manifestations dans un de ses concerts.
Il y a quand même eu un travail d'une communauté, d'un culte, qui a fait en sorte qu'elle ne puisse plus travailler du tout. C'est ce qu'elle a dénoncé, et c'est ce que d'autres ont témoigné. Et c'est aussi le cas, je crois, pour Kéron, qui s'est fait assassiner artistiquement pour une mauvaise blague. Et il y en a tant d'autres, d'un côté comme de l'autre. À partir du moment où on accepte que le politique se mêle de l'artistique, ce qui a été fait devant toutes les caméras du monde entier pour l'artiste Dieudonné, qu'on ne peut pas défendre pour ses prises de position. Mais en attendant, un politique, il n'a pas à faire ça, c'est la justice à le faire. À partir du moment où un ministre de l'Intérieur se montre dans la rue pour le faire, il est pas étonnant de voir que des activistes politiques le fassent aussi. Tout simplement.
Ouais, mais Julien, je trouve qu'il y a une dérive quand même très très inquiétante.
Mais
pardon.
D'accord avec vous. Mais on ne peut plus écouter.
Pardon, j'ai pas entendu la ministre de la Culture se prononcer. Ça, mais je regardais Catherine Pégard, elle s'appelle, c'est une ancienne journaliste. Et je regardais son fil des réseaux sociaux voir si alors elle était en déplacement. Mais je suis étonné que s'il y a que Laurent Nunez qui a pris la parole. Ça serait bien que la ministre de la Culture se prononce aussi. Elle doit être là aussi pour garantir aux artistes la possibilité de s'exprimer.
Je sais pas si tu as observé qu'elle est pas tout à fait en première ligne, cette ministre.
Madame Pégard, non, elle est assez discrète.
Elle a pas un goût immodéré pour les médias de son ancienne maison.
Enfin, de temps en temps, il y a des prises de position peut-être à tenir. Merci Julien d'avoir appelé au 32-16. Est-ce qu'on a une consultation, sur ce qui s'est passé à Grenoble samedi? Le concert de la DJ Barbara Butch, interrompu par des militants pro-palestiniens, est-ce que vous parlez de censure? Ben, vous dites oui à 78,3% sur le compte X des Grandes Gueules. Dans un instant, sur ce grand plateau que vous découvrez sur RMC Story, qui trouble un peu les GG, il faut bien le reconnaître ce matin, eh bien nous allons accueillir Anaïs Sens pour le OSEF. A tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
La La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story 9h43. N'oublions pas que cette semaine dans les Grandes Gueules, on vous offre un séjour au Parc Astérix, un séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Le Parc Astérix pour vous, l'occasion de profiter des 50 attractions et spectacles pour toute la famille pendant cet été gaulois. Pour emporter votre séjour au Parc Astérix, vous envoyez le mot parc au 732-16, parc au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. C'est parti pour le Joseph, Anaïsen, c'est là, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Salut Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Maud Bréjon annonçait mercredi dernier sur BFM TV que 16 500 climatiseurs auront été livrés dans les hôpitaux d'ici la fin de semaine dernière. Et que l'objectif initial des 30 000 climatiseurs serait tenu avant la fin du mois. Faux, disent les syndicats qui dénoncent dans Le Parisien ce matin une opération de communication. D'après Force Ouvrière, à ce jour, de nombreux établissements hospitaliers n'ont toujours pas reçu de climatiseurs. Pire, ce serait aux établissements de passer commande eux-mêmes et de se faire rembourser ensuite. Est-ce qu'on s'en fout pas, Laura?
On s'en fout pas.
Charles?
On ne s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Je suis très surpris des chiffres avancés par le gouvernement, s'étonne Didier Birigue, secrétaire général de FO Santé, interrogé par Le Quotidien. La ministre ne sait pas nous dire où les livraisons ont été faites selon lui. Charles Consigne?
Où sont les climatiseurs?
Non, mais ce qui est effarant, on donne tout l'argent qu'on gagne à la puissance publique. On nous explique toujours, ah oui, mais vous comprenez, dans les autres pays, si vous tombez malade, on ne vous soigne pas. Alors qu'en France, c'est tellement merveilleux. C'est toujours l'argument massue pour justifier ce vol. Et en fait, ce qu'on constate, bien sûr, c'est que même sur ce sujet de la santé, qui est quand même le sujet sur lequel, en gros, tout le monde est à peu près d'accord, eh ben, en réalité, l'argent ne va pas à la santé, est gaspillé ailleurs, autrement, on ne sait pas, sur le chemin, dans d'autres dépenses. Et sur ce béaba de n'importe quel pays développé qui est de climatiser un hôpital, eh ben, la France
bricole.
Comme un pays qu'on disait autrefois sous-développé. Aujourd'hui, on dit en développement. La France est devenue un pays en développement. Voilà. Et ça, je trouve ça assez dingue, surtout après 10 ans d'un pouvoir qui avait comme étendard la modernité. C'est-à-dire que il fallait voir ce que c'était, les leçons que nous donnaient tous les blancs-becs en costume jaunasse du gouvernement, qui vraiment prenaient leurs opposants pour des demeurés. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 10 ans, on se demande qui sont les demeurés.
Bruno Poncet?
Mais moi, je me demande déjà qui peut croire Maud Bréjon quand t'as dit quelque chose. Déjà, ça va être compliqué.
Oh.
Mais non, c'est la vérité, en fait. Parce que quand t'es porte-parole du gouvernement, t'es un porte-parole d'un gouvernement qui ment à longueur de journée. Et moi, je suis désolé, mais livrer des climatiseurs ou des ventilateurs fin juillet, début août, bah, t'as qu'à les livrer même au mois de décembre, ça sera la même chose, en fait. Et au lieu de toujours mettre des pansements sur les jambes de bois, ils auraient dû prévoir ça en amont. Et puis, au-delà de ne pas les livrer.
C'est surtout ça. C'est bien. Climatiseurs, il faut les acheter l'hiver.
Il faut les acheter l'hiver.
Soit disponible à la première canicule.
Les achète à qui? Parce que moi, j'aimerais bien savoir, oui. On va engraisser qui, là? 60 000 climatiseurs, on les achète à qui? Bah, je pense à des.
Oui, mais il
n'y
a pas de climatisation française.
Ah, ben, je sais pas, parce que nous, on avait reçu Véran ici. Tiens, Olivier est avec moi. On avait reçu Véran qui nous expliquait. Ah, mais quand on avait voulu les vaccins, on n'avait pas de frigo pour les mettre dedans.
Ah bon?
Ben, donc on va produire des frigos. On les produit toujours pas et on produit encore moins de climatiseurs.
Moi, je serais assez curieux de savoir combien ça coûte, parce que acheter comme ça dans l'urgence des climatiseurs dans un marché en tension, parce que tout le monde achète des climatiseurs.
Ils les ont pas achetés. J'en suis sûre et certaine.
Comment ça?
Ben, je pense qu'ils ont fait comme le cornu a l'habitude de faire, c'est-à-dire que des grandes annonces au moment de où c'est bien le merdier.
Non, mais certains sont arrivés à l'hôpital. Faut pas dire ça.
Oui, on les a vus. Alors, je sais pas s'ils savent pas comment ça marche. Moi, je peux leur donner les numéros de Mondial Relais, de
pack. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as plus sur le marché, puisque tout le monde, au même moment, a voulu acheter des climatiseurs.
Dit, ma main à couper,
donc, tu te fais livrer au bout de 6 semaines, 7 semaines. Et le gouvernement,
là, c'est pour ça que j'ai mis ma main à couper qu'ils les ont pas, les climatiseurs.
Il faut installer des chauffages maintenant.
Bah, bien sûr.
Oui, ça commence à faire frais. Il fait 10 la nuit, là.
Il fait froid, là. Donc, ça sert plus à rien, les climatiseurs.
Non, mais c'est le plus choquant, c'est ça. C'est le manque d'anticipation. C'est-à-dire que tes climatiseurs, tu les achètes dans l'urgence, donc ils arrivent après la canicule.
Mais ils ont jamais. Enfin, franchement, on va se le dire. En 10 piges, ils ont anticipé quoi? Jamais rien sur n'importe quel sujet.
Donc, ne pas anticiper, ça leur fait payer plus cher,
moins la vie.
Mais ça, c'est la politique du risque calculé. Tu préfères réparer que prévenir, en fait. Parce que tu dis que prévenir, faire de la maintenance et de la prévention, ça va te coûter plus cher qu'en fait mettre un pansement après une fois que c'est fait. Et donc, en fait, ils préfèrent faire ça. Et ça fait des années que cette politique-là, c'est une politique de pouvoir public qui est faite depuis des années. C'est pas que Macron.
Après, je me souviens de ce que disait Jérôme Marty, notre médecin. Rien n'empêche un directeur d'hôpital de se prendre un peu par la main, d'aller acheter des climatiseurs en urgence pour équiper les chambres les plus problématiques, vraiment chez les malades.
T'as vu, ils ont
à un moment donné, il faut aussi. Alors, je sais qu'en France, on attend tout que la hiérarchie donne son feu vert.
Oui, mais d'autant que l'hôpital est très administré. Ah, et les postes administratifs à l'hôpital ont un pouvoir considérable par rapport aux médecins. Ils ont parfois plus de pouvoir que les médecins eux-mêmes.
Est-ce que les hôpitaux français, ils ont la caisse, par exemple, chaque hôpital, parce que tu as des hôpitaux qui galèrent, est-ce qu'ils ont la caisse pour s'acheter 40, 50, 100 climatiseurs? Déjà, tu les trouves où, comme on disait tout à l'heure? Et puis surtout, est-ce que tu as les ronds? Parce que c'est 100 à 500 balles, ça te fait quand même 50 000.
Ensuite.
Sachant qu'à la base, ils avaient 69 milliards.
Ouais,
à la base.
Allez, on enchaîne.
Cette petite info du Canard Enchaîné, cette fois-ci, pour vendre ou liquider le magazine 60 millions de consommateurs, plusieurs cabinets de consultants ont été appelés à la rescousse par Bercy. Ces boîtes privées vont se partager près de 1,3 million d'euros d'honoraires, pris sur le budget de l'État, évidemment. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On s'en fout pas.
Là, Laura.
Ah, et puis pas contente du tout.
Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Bruno.
Bah en fait, encore une fois, on voit bien que l'argent public est distribué à des cabinets privés. C'est la spécialité de Macron. Et depuis le début, les cabinets de conseil, les cabinets ce que tu veux. Et là, pour sauver quelque chose qui est comme d'utilité publique, parce que 60 millions de consommateurs, ça te permet quand même, des fois, de réguler un peu la consommation, de savoir si c'est pas d'arnaque et tout.
Bah, ça marche plus. La poupée Chine il y a 6 mois. Hein.
Non, mais Olivier, la presse écrite, ça marche où? Il n'y a plus une presse écrite. Si, la presse écrite marche parce qu'elle est subventionnée. Et que ça soit de droite ou de gauche, ils sont tous contents de toucher des ronds de l'État pour se maintenir à flot.
Mais est-ce qu'il y a besoin là, de comme... cabinet de conseil, justement?
Ah non, c'est ça, 1,3 million, encore une fois, je te dis.
Ah, c'est-à-dire que ça coûte plus cher de vendre que de faire fonctionner.
Ils ont quand même 1,3 million dans le journal et puis ils les donnaient à des cabinets privés.
Vrai. Non, mais c'est vrai, je me dis que les 1,3 million,
à limite,
ils
n'est pas capable de s'occuper de ce dossier. Il faut.
Ah, peut-être.
Non, moi, je suis partisan d'une régulation et même d'une interdiction du recours au cabinet de conseil. Je pense je ne vois pas pourquoi nos administrations qui sont en surnombre,
peut-être qu'il y a pas toutes les compétences,
qui sont soi-disant dotées de toutes les compétences, auraient besoin de passer par McKinsey et autres. Cabinet de conseil qui, bien entendu, dès que c'est l'État, se goinfre comme des malades et ne foutent rien comme de juste dans les cabinets de conseil. Donc moi, je pense qu'il faut interdire à l'État, sauf cas de force majeure, vraiment cas où l'État ne peut pas faire autrement. Mais sinon, je pense qu'il faut interdire à l'État de sous-traiter ses missions à des cabinets de conseil. On a des agents publics qui sont là, qui sont payés toute l'année pour ça. On a par ailleurs une supervision
130 000 fonctionnaires quand même.
À Bercy, voilà. Je pense que honnêtement, la cession du magazine 60 millions de consommateurs, c'est pas la fusion entre Arcelor et Mittal. C'est pas un truc d'une complexité folle. Donc, dans ces conditions-là, je pense qu'il faut arrêter de recourir au cabinet de conseil qui, en plus, souvent, reviennent en réalité
sur la vente d'un magazine.
Tout ça n'est pas clair, par ailleurs.
Dans ce truc-là, il y a deux choses qui me dérangent. C'est déjà, je trouve que 60 millions de consommateurs, alors on peut peut-être réfléchir à éviter maintenant à ne plus le vendre, mais que ça devienne un réel service public, puisque c'est déjà complètement financé. Ça a quand même permis de lever des vrais scandales, notamment la poupée Chine, les couches avec les produits chimiques, tout ce qu'on nous mettait à nous les femmes dans les protections périodiques.
Il y a aussi l'UFC Que Choisir qui fait ça.
Oui, mais c'est privé.
Ah oui.
Mais oui. Alors, donc du coup, tu peux avoir de la complaisance, tu peux avoir de la corruption, tu peux avoir
quand c'est public, il n'y a jamais de complaisance.
Non, jamais, monsieur.
J'adore la naïveté de Laura.
Non, je dis pas ça.
Jamais, monsieur.
Je dis pas ça.
La fraîcheur d'esprit.
Non, je dis juste que quand t'appartiens à un groupe privé, c'est un peu plus, peu plus facile. Bon, et deuxièmement, et là, je rejoins Charles. Moi, c'est ce côté. Je pense que là, pour le coup, je suis beaucoup moins candide. On le sait qu'en fait, ce ne sont que des arrangements financiers, le fait de prendre des cabinets de conseil. Moi, bizarrement, quand j'étais au CRGN et que nous avons rendu notre superbe...
C'est quoi?
le CRGN, c'est le Centre de Recherche National de la Gendarmerie Nationale. Bah, là, toutes les annonces qui vont être faites sur la pédocriminalité, bah, c'est nous qui avons bossé pendant 72 heures. Donc, madame, il y a certains députés ou secrétaires d'État qui ont bien récupéré notre travail sans même citer le fait
que c'est
nous
qui avions
bossé. Mais c'est juste que quand c'est pour des sujets comme ça, bizarrement, on n'a pas besoin de cabinet de conseil. On prend des gens du terrain qui sont compétents, qui le font bénévolement et on est bien content de le faire. Là, ça va coûter 1,3 million, c'est quand même bizarre.
Mais je sais même pas ce qu'a fait ce cabinet de conseil. On pourrait au minimum
essayer de trouver un repreneur peut-être.
Mais surtout il faudrait faire la transparence. Il faudrait qu'on sache ce qu'a fait. Pourquoi il n'y a pas de raison qu'il y ait d'opacité là.
Puis savoir qui c'est qu'il y a dans le cabinet de conseil aussi. S'il n'y a pas le cousin ou le frangin.
Il faudrait qu'on sache
ou...
quel cabinet et pour quelle mission. Qu'ils ont fait concrètement. Je pense qu'on aurait des surprises quand même.
Ça c'est la Macronie, les cabinets de conseil.
Je pense qu'on aurait des surprises.
C'est la Macronie. Rappelle-toi, chaque gros sujet, cabinet de conseil.
Ouais, c'est pas le seul. Aussi.
Ouais, mais sauf que quand les chiffres étaient sortis, des milliards qui étaient dépensés en cabinet de conseil, ça avait arraché la tête à tout le monde. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais rappelle-toi.
Dans un pays suraministré, c'est vrai que ça paraît étonnant d'être obligé en plus de faire appel au privé.
C'est à croire comme s'il n'y avait pas eu un espèce de je te prête des sous, tu me fais faire des études. Des
consulting en général, c'est comme une escroquerie.
Dans un instant, seriez-vous prêt à filmer et dénoncer le jetteur de mégots devant vous, dans une voiture, etc. Parce que ça se fait de plus en plus. Avec les incendies, là, il y a une crispation sur ce sujet. Donc les gens filment et dénoncent les jeteurs de mégots sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils font preuve d'action citoyenne ou est-ce que c'est quand même purement et simplement de la délation? Le 32-16 pour intervenir. Puis autre interpellation à venir dans la deuxième heure. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans? A priori, ça va être fait. Ça passe à l'Assemblée nationale cette semaine. Mais est-ce que vous, parents, vous l'avez déjà fait? Parce qu'on attend toujours que l'État fixe des interdits à nos enfants. Mais enfin, rien n'empêche les parents de supprimer le smartphone, de supprimer les réseaux sociaux sur le portable de leurs enfants. Alors visiblement, comme on n'arrive pas à le faire, on demande à l'État de le faire à notre place. Est-ce que ça sera efficace? Eh bien, on vous attend pour débattre de ces sujets avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.